Dr. Réal Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et nous vous devons également la création du réseau québécois de villes et villages en santé, considéré comme un modèle par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce modèle et du même coup, à quels besoins il répondait lorsque vous l'avez créé?
En fait, c'est le premier projet qui a été lancé ou dont j'étais à l'origine. C'est un projet de ville en santé à Rouyn-Noranda. La ville de Rouyn-Noranda, j'étais dans une première étape de ma vie de directeur de santé publique. À l'époque, on appelait ça directeur du département de santé communautaire. Et j'avais étudié, j'avais fait une maîtrise à l'Université de Californie à Berkeley en 1984-85 et j'y avais rencontré un professeur qui s'appelle Lendoul et qui avait lancé l'idée de ville en santé, c'est-à-dire un concept d'une part qui part d'une vision très globale de la santé, c'est-à-dire la santé n'étant pas seulement une absence de maladie, mais également une ressource là, pour permettre aux gens d'améliorer là, leur qualité de vie en général et de favoriser leur plein accomplissement. Le deuxième concept, c'est la notion qu'une ville, un village, une communauté, c'est pas seulement l'addition d'un certain nombre de personnes, mais c'est un organisme vivant en soi, qui peut naître, grandir, avoir des difficultés et même mourir. On connaît l'existence là, de communautés qui sont disparues. Et ce qui fait la santé d'une communauté, c'est pas seulement l'addition de la santé des personnes, mais c'est également la qualité de la communauté comme organisme, c'est-à-dire si on peut le comparer à un corps humain, il y a des cellules qui sont les individus, mais il y a également des organes qui sont soit les institutions, les organisations de différentes sortes, les groupes communautaires, etc. Donc, tout ça doit fonctionner ensemble pour que la communauté soit en santé. Et à partir de ça, ben, on a élaboré, le docteur, le professeur Lendoul et un médecin de santé publique de Toronto, ont élaboré les caractéristiques d'une communauté en santé. Donc, une communauté en santé, c'est un endroit où on peut retrouver la réponse à ses besoins de base, comme l'eau potable, comme l'élimination des déchets, le logement, etc. C'est un endroit où on peut travailler, c'est un endroit où les gens peuvent recevoir des bons services d'éducation, où l'environnement est sain, où la qualité du tissu social est bonne. Donc, il y a une dizaine de caractéristiques comme celle-là. Et la dernière caractéristique, c'est une communauté où la gouvernance est aussi de qualité, est en santé. Donc, à partir de ça, nous, ce qu'on a fait, c'est ici au Québec, ça a été de se dire, oui, mais qui peut jouer le rôle de chef d'orchestre pour améliorer la santé ou la qualité de vie d'une communauté? Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se tourner vers les municipalités, donc les gouvernements municipaux, qui sont à la fois responsables de plusieurs aspects de la qualité de vie d'une communauté ou de la santé d'une communauté, déjà, et qui sont par ailleurs aussi, parce que ce sont des élus locaux, en mesure d'interpeller tous les autres acteurs, les institutions, les écoles, les services de santé, les différents ministères, mais aussi les entreprises et les groupes communautaires, donc les interpeller et les inviter à développer des projets pour améliorer la qualité de vie, mais des projets qui sont décidés par la communauté, donc par ces acteurs-là d'une part, mais aussi par la population. Donc, le concept de ville en santé, c'est un concept qui a trois caractéristiques principales. L'engagement de la municipalité, Le deuxième est la concertation entre les différents secteurs de la communauté. Et le troisième, c'est la participation et le renforcement des capacités des citoyens et des citoyennes. Ça répondait, le principal besoin auquel ça répondait, c'était celui de créer une cohérence dans l'action locale, cohérence entre tous ces acteurs sectoriels qui ont des responsabilités sectorielles, qui ont chacun leur job à faire, mais qui, individuellement, ne sont pas capables de répondre à l'ensemble des besoins d'une population.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce premier projet-là pour donner un exemple concret?
Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Au tout début, la première démarche qui a été faite, c'était une démarche, une vaste démarche de consultation auprès de la population, c'est-à-dire auprès des adultes, d'une part, en utilisant une technique d'animation qu'on appelait les ateliers de vision stratégique, mais également auprès de tous les enfants du primaire et du secondaire. Cette consultation-là a permis de recueillir une quantité phénoménale d'idées qui sont venues alimenter la vision qui s'est créée par la suite au sein du projet. Et ça a été suivi rapidement par un forum communautaire où ont participé plus de 250 personnes représentant, il y avait des citoyens, des citoyennes, mais également des représentants d'une soixantaine d'organismes. Et à partir de lors de ce forum-là, il y a 6 projets qui ont été adoptés pour être implantés dans le cadre de Ville en Santé. Je vous en mentionne un particulièrement visible depuis le début, puis encore plus aujourd'hui. Ça a été la création d'un parc botanique autour d'un petit lac qui est en plein milieu urbain, mais dans la section sud de la ville, et qui était littéralement un dépotoir. Les gens, au fil des années, avaient jeté toutes sortes de choses là-dedans, etc. Il y avait une dame qui avait 60 ans à l'époque qui a réussi à convaincre les participants au forum d'adopter son projet, qui était celui de créer un parc botanique autour. Et très rapidement, les gens se sont mis à l'œuvre, tout le monde a mis la main à la pâte, les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, toutes les institutions, dont la ville aussi, ont mis la main à la pâte. La main-d'œuvre qui a été utilisée dans un premier temps pour nettoyer ce parc, et dans un deuxième temps pour nettoyer les lieux plutôt, et dans un deuxième temps en faire un véritable parc botanique, mais la main-d'œuvre, ça a été essentiellement une main-d'œuvre bénévole. Je peux vous dire que l'évaluation qui a été faite 5 ans plus tard avait démontré que 3000 personnes avaient mis la main à la pâte, c'est-à-dire 10% de la population de la ville. C'est devenu, avec le temps, ça a été un travail de longue haleine et qui est toujours qui se continue, il y a des améliorations qui sont apportées à chaque année, mais c'est devenu un espace absolument magnifique avec des arbres, une grande variété d'arbres, avec des fleurs de toutes sortes, avec des endroits pour des activités de loisirs extérieurs, des bancs. Ça crée un endroit qui est beau, qui est très fréquenté par les gens, où il n'y a pas de vandalisme en passant. Il n'y a à peu près pas de vandalisme parce que, justement, ça appartient aux gens. C'est les gens qui l'ont fait. Ça, c'est un des multiples projets. Il y a énormément de projets qui ont été faits par la suite, certains touchant l'environnement. Vous savez qu'on a à Rouyn-Noranda, une fonderie de cuivre et qui est littéralement dans la cour de la ville. En fait, le quartier qui est juste à côté, les premières maisons sont à peine à 100 mètres de l'usine. Donc, il y a eu, au fil des années, des problèmes de contamination par des métaux lourds. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Mais sans vous raconter tout le détail, en 1990, la ville, dans le cadre de son projet Ville et Village en Santé, a mobiliser tous les acteurs concernés pour régler un problème de contamination du plomb dans ce quartier-là. Et depuis ce temps-là, ce phénomène-là est complètement contrôlé. Donc, la ville a joué un rôle majeur dans ce dans cette concertation-là et dans la gestion des conflits potentiels qu'il pourrait y avoir entre des acteurs, par exemple, comme la compagnie, son syndicat, le ministère de l'Environnement, les groupes environnementaux locaux, etc. Et le projet est toujours aussi actif qu'il l'était au tout début.
Vous venez d'expliquer que ces multiples projets-là demandent une collaboration entre plusieurs acteurs de la communauté. À la lumière de votre expérience, quels sont les ingrédients essentiels pour établir en ces acteurs aussi diversifiés un climat de coopération positif?
Moi, je dirais que le premier ingrédient, c'est l'implication de la municipalité. Dans l'exemple que je vous ai donné concernant le plomb dans les quartiers Notre-Dame, il y a un comité de citoyens en plus qui s'était formé pour défendre les intérêts des citoyens. Et ce que la Ville a décidé en acceptant de prendre le leadership de la démarche, ça a été de dire, c'est pas juste, la Ville va s'associer aux citoyens. Fait qu'il s'est formé un comité qui a géré la démarche, qui était co-présidé par un conseiller municipal et un citoyen qui était président du comité de citoyens. Ça, c'est un exemple là, de stratégie qu'on peut mettre en place pour, vous voyez, dans ce cas-là, c'était les citoyens et leur gouvernement local qui, eux, sont bien placés pour interpeller tous les autres, y compris les entreprises. Le deuxième ingrédient qui est absolument majeur, il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas quelqu'un qui coordonne ces activités-là. Et ça prend des gens avec un profil un peu particulier. Ça prend des gens qui ont d'abord une vision large des choses, des gens qui sont très ouverts, des gens qui écoutent, des gens qui ont certaines habiletés techniques au niveau de l'animation, des gens qui sont capables de s'effacer un peu puis laisser la place aux autres pour maximiser ou optimiser, si on veut, leur contribution. Ça, c'est absolument majeur. Ça prend des gens qui ont la capacité de franchir les frontières des silos et de se sentir à l'aise avec tous ces gens qui ont des missions différentes, des valeurs parfois différentes, des habitudes ou des préoccupations différentes. Troisièmement, ben c'est sûr qu'on fait pas ça n'importe comment. Il faut donc de bons outils d'animation. Et ça, il y en existe des tonnes d'outils d'animation qui peuvent être particulièrement utiles à soutenir la mobilisation des communautés. Nous, on en a diffusé un assez largement dans le réseau qui s'appelle « Les clés du succès ». C'est un guide très, très, très pratique qui pour soutenir la concertation dans les communautés. Le dernier facteur majeur, le facteur de succès, je dirais qu'il faut la bonne combinaison de vision, puis comme le disait récemment un de mes bons amis, la vision, ce sont des valeurs qui sont projetées dans l'avenir, et donc une combinaison de vision et un sens pratique extrêmement important. Il faut être extrêmement concret dans l'action. Les projets ne se réaliseront pas s'ils ne se situent pas dans une vision, d'une part, mais s'ils ne sont pas traduits rapidement dans des actions concrètes. Nous, on a pris l'habitude de toujours dire aussi, quand vous commencez un projet comme celui-là, commencez pas par les choses les plus difficiles, commencez par les plus faciles. Si vous commencez par les plus faciles et que vous obtenez des succès, ce sera d'autant plus facile de passer à des choses plus complexes. Le jardin botanique à Rouyn-Noranda, c'était facile de partir ça d'une certaine façon, alors que gérer toute la question de la contamination du plomb dans le quartier Notre-Dame, c'était pas facile. On a commencé par le jardin botanique, puis quand on s'est senti assez solide, on a sauté dans l'autre problème, dans l'autre question, qui était pas mal plus complexe à résoudre.
Docteur Lacombe, je vous remercie infiniment. C'était vraiment passionnant.
C'est bon.